En 1905, ce sera la grève. En 1924, ce sera la grève. Les femmes réclament pas grand-chose.
Elle réclamait Pemerel. Pemerel, c'est 1,25 €.
Elle réclame 20-25 centimes d'augmentation.
Elles ont tenu 1 franc.
À la fin, alors, on nous a accordé puisqu'ils ont eu peur que ça allait trop loin.
Les peines sardines, ouvrières en lutte. Premier épisode, la grande grève de 1924. Margot Hartel, Guillaume Baldi. Archive 1989, l'usine rouge, Marie-Elia.
Béziers allons, Macron.
On avait cassé tous les carreaux chez Béziers. Oui.
Alain Le Doharé, historien.
Alors, Douarnenez est né, il faut bien le dire, d'abord de quelque chose qu'on mange et qui vit dans la mer et qu'on appelle la sardine. Avant de s'appeler la baie de Douarnenez, Douarnenez s'appelait la baie des sardines. Ça devient baie de Douarnenez quand ? Eh bien, quand Douarnenez devient la capitale de la conserve de la sardine et le grand port sardinier de France. Et ça à partir des années 1850-1860, avec l'apogée de l'activité et de cette mono-industrie dans les années 1914-1920. En 1850, avant l'arrivée de la première conserverie de poissons, Douarnenez compte 2000 habitants. Une cinquantaine d'années plus tard, Douarnenez compte 15 000 habitants. Sur ce territoire minuscule existent deux ports. Un est un port de pêche et un port de débarquement du poisson qu'on appelle le Rosemeur, qui se trouve à l'est de Douarnenez. Et celui qui est à l'ouest, qui donne sur le Poru, c'est le port de commerce où on débarque tout ce qui est nécessaire aux 30, 40 conserveries de poissons de Douarnenez. Il est important de dire dès à présent qu'une conserverie, ça peut comporter 200 ouvrières, ça peut comporter aussi 9 ouvrières. Ces conserveries ont besoin de deux choses, en abondance, de sardines. Qu'est-ce qu'il faut en plus ? Eh bien, il faut de la main-d'œuvre. Et donc, on a une main-d'œuvre qui provient essentiellement au départ de la campagne où de grandes familles nombreuses et paysannes proviennent des jeunes femmes et des jeunes hommes. Les premières vont devenir ouvrières d'usine. À l'époque, on ne dit pas ce terme-là, on les appelle des filles de friture.
Les petites friteuses seront heureuses quand nous irons à quai ce soir. Le vent qui chante et qui m'enchante, etc. Et c'est repris tout le temps dans le refrain.
Et ici, on est vraiment dans le berceau de Douarnenez. C'est ici que débarquaient essentiellement les chaloupes qui, par milliers, déposaient ici des sardines. Cette petite sardine-là, cet or bleu, va être déposée par panier en osier, par les ouvrières, le plus souvent, par les marins aussi, dans les conserveries de poissons qui jouxtent cette cale. La sardine, c'est un poisson fragile, on n'a pas de frigo, donc il faut le travailler très vite et on l'envoie dans des conserveries de poissons, à la main, comme ça, par panier. Et les conserveries sont tout autour des ports de débarquement, des quais de débarquement. Alors Douarnenez, comme je vous l'expliquais en 1924, c'est une toute petite commune de 70 hectares. Et donc dans cette petite ville-là, résonnent très souvent des chants, des cris, de la musique, des bruits de sabots. Mais c'est un bruit omniprésent, tous les gens le disent. Le bruit des sabots des petites filles qui allaient réclamer aux femmes de venir travailler dans les usines. Mais aussi le bruit des sabots des ouvrières qui passaient sur les quais ici. Et vous voyez bien, on est dans les petites rues, des petits quais, des petites ruelles. Et donc il y avait une résonance de tout ça.
Marie-Aline Agadic, la mère. Claire Rivière, sa fille.
Ma grand-mère, ses sœurs et toutes ses filles ont travaillé à l'usine en chantant en breton et nous ont appris ensuite les chansons qu'elles chantaient quand elles travaillaient à l'usine. Et on ne peut pas dire qu'il s'agisse de à proprement parler de chants de travail, et c'est ça qui est intéressant, parce que les grands chants patrimoniaux ont été transmis non pas par le biais de festoons ou de trucs comme ça, mais dans les conserveries de poissons.
C'était des femmes qui, de toute façon, même dans leur vie, il y avait deux valeurs, le chant et le travail. Elles chantaient beaucoup. Elles chantaient énormément. Et dans les usines, elles chantaient beaucoup. Et il y avait les grandes chanteuses et les grandes travailleuses. Et c'était toujours une qui donnait quand le sommeil commençait à venir, parce que les horaires, l'été, étaient très, très fatigants. Elles travaillaient jusqu'à minuit. Et Marie-Joseph entendait les chansons. Et elle entendait Monsieur Chemin, le patron de l'usine, qui disait: chantez les filles, le travail avance plus vite.
Anne Denès-Martin, elle a écrit Les ouvrières de la mer en 1994.
Elles avaient entre 70 et 85 ans. C'était des personnages. Je pouvais passer des heures avec elles toutes. Et tellement elles m'apprenaient de choses. Au fond, on pourrait dire qu'avant d'écrire Les ouvrières de la mer, j'ai fait un stage avec elles. Et donc, je sentais qu'il y avait une urgence quand même à recueillir leurs paroles. Elles ne parlaient pas, elles disaient, voilà, une expression qu'elles employaient, on a eu la vie dure, on a eu la misère. Normalement, elles entraient à l'usine après le certificat d'études, c'est-à-dire 12 ans. Mais le certificat d'études n'était pas exigé. Et elles portaient la coiffe dès 12 ans. Les plus jeunes, quand les familles étaient pauvres, pouvaient entrer à 10 ans. Et l'une m'a raconté que, quand elle entrait à l'usine, à 10 ans, on était obligés de leur mettre des petits bancs pour qu'elles puissent gagner la table de travail. Et quand l'inspecteur du travail passait, elles allaient dans le trou à sel. On les cachait dans le trou à sel, parce que l'inspecteur n'aurait pas accepté que des petites filles si jeunes travaillent. Mettre la sardine en boîte, c'est tout un art. Et si c'était pas bien fait, c'était rejeté par la contremaîtresse. Et on comptait ça sur la paye. Moi, j'ai une mémoire auditive. Et j'entends encore leur voix.
Et une fois que le poisson était à l'usine, on nous cherchait alors à l'époque, on détectait la sardine. Et une fois qu'on avait des têtes, alors on la mettait dans la saumure. Et après ça, alors on allait la prendre avec des peignes pour les mettre alors sous les étagères là. Et après ça, oui.
Archive, l'usine rouge.
C'était la vie de l'usine. Le lundi matin, on allait à 5 heures à l'usine. Et nuit et jour à travailler. Qu'est-ce qu'on a pu travailler alors? Quand on touchait la paye, on l'envoyait à la maison. Et la mère était enchantée, parce qu'elle avait 14 enfants. Hein. Alors c'était quelque chose, on ne mangeait pas du pain beurre tous les jours. Moi, j'étais obligée d'être heureuse.
Oui, j'étais obligée.
Mais j'ai souffert du sommeil à l'usine. J'étais une bonne dormeuse et je souffrais du sommeil. Oui. Le soir, quand on venait de l'usine, à la nuit, 3, 4 heures, quelquefois du matin, on chantait, on criait. Ceux qui étaient au lit, sûrement, ça ne s'enchantait pas, ouais.
La ville n'était pas bonne comme maintenant.
Et on avait du plaisir comme ça.
À l'époque, chez Gaston, on ouvrait toutes les fenêtres le soir quand les femmes chantaient. C'était en été. Et on mettait, les marins mettaient tous les mâts devant l'usine. Alors, ils venaient des gens là s'asseoir sur les mâts, écouter les gens chanter. Et elles chantaient, saluées, riches, heureux. Et voilà que le patron était à les écouter. Alors, ils montent. Et de suite, il va à deux femmes et ils ont dit allez à la porte. Et elles ont été licenciées parce qu'elles avaient chanté Salut Richereux. Il n'y avait pas le droit de chanter ça.
Que faut-il à l'ouvrier qui travaille être payé au prix de sa sueur, vivre un peu mieux que toucher sur la paille.
Charles Tillon, qui écrit en 1970 On chantait rouge. Charles Tillon, personnage important de l'histoire de France, puisque il est le député maire d'Aubervilliers, il est le créateur des FTPF, Francs-Tireurs et Partisans Français, il est le premier ministre de l'ère du général de Gaulle. Dans On chantait rouge, il dit que c'est à Douarnenez qu'on chantait rouge. Et c'est là qu'il a fait ses classes. Et il dit très bien dans ce livre-là que Douarnenez, c'était germinal, quoi. Les conditions de travail étaient comparables à celles qu'on trouvait dans les mines, dans les aciéries ou dans les soieries à Lyon, à Paris, à la fin du XIXe siècle. C'était terrible, quoi.
Saluez ce sont eux qui gagnent vos millions.
Berlin.
Ah oui. Il n'y a pas eu un événement qui a déclenché la grève et une réponse non. C'était le besoin. On n'arrivait pas. Un jour, on craquera. On a craqué et l'une dit ceci. Et je trouve cette expression terrible. Quelquefois, ma mère me donnait un sou pour acheter de la poussière de gâteau. On mettait ça dans un cornet et elle payait la poussière de gâteau. C'est-à-dire les petits déchets de gâteau qui restaient. Quoi. On vendait ça. Dans les livres, on parle toujours de la grève des femmes de 1924-25. Mais si elles ont fait cette grève de 1924, c'est parce qu'elles n'étaient pas des bleues. Leur mère avait fait, leur mère ou leur tante ou leur voisine, donc une génération précédente, avait fait la grève de 1905. Et vous savez la raison de la grève ? Pour être payée à l'heure et non aux mille de sardines travaillées. C'est quand même un scandale de payer des gens aux mille de sardines travaillées, parce que comment compter mille sardines ? Et elles ont fait grève et elles ont remporté la grève. C'était assez extraordinaire quand même, hein, en 1905. Bien.
Le salaire horaire proposé, c'est 80 centimes.
Fanny Bunion.
Que touchent les ouvrières, quelle que soit leur ancienneté.
Historienne.
À la même époque, en 1924. Le prix d'un litre de lait, c'est à peu près un franc à l'époque. Donc ça vous donne une idée de ce que représente un salaire horaire sur un budget. On considère dans les enquêtes ouvrières globales que pour une famille de 5 personnes, deux adultes et trois enfants, il faut un budget à peu près de 5000 francs par mois.
Elles me disaient toutes, c'est parti de l'usine Carnot.
Alors, il y a un premier épisode qui est un peu le prologue de la grève qui se déroule le 20 novembre 1924 où des ouvrières et ouvriers demandent une augmentation à leur patron qui le leur refuse. Donc ça donne lieu déjà à une petite protestation. Et en fait, le lendemain, donc le 21 novembre 1924, cette demande d'augmentation de 20 centimes pour les hommes et 20 centimes pour les femmes, je précise, puisque les hommes et les femmes ne sont pas rémunérés de la même façon en regard de leur sexe et pas des postes qu'ils occupent, reformule cette demande et il y a deux usines qui vont commencer, les premières à entamer un mouvement de protestation qui va ensuite s'étendre à d'autres usines de la ville. Donc le point de départ de la grève, c'est une revendication salariale.
Et vous parlez du mot d'ordre, les 25 sous.
Pèmerelle à veau. C'était 25 sous de l'heure, elle réclamait ça.
Alors en fait, dès les premiers jours de la grève, il y a une tentative d'organisation des ouvriers et ouvrières par eux-mêmes. On a mention dans une note de renseignement que une déléguée, on insiste bien sur le féminin, du syndicat CGTU, donc Confédération Générale du Travail Unitaire, qui est donc une scission de la CGT suite au congrès de Tours et donc à la partition des communistes et des socialistes, pour le dire de manière un peu rapide, donc a été demandée. Donc il y a un télégramme qui a été envoyé, on ne sait pas par qui, peut-être par Daniel Le Flanchec, mais on n'en est pas certain. Il faut savoir que le maire de Douarnenez, qui s'appelle Daniel Le Flanchec...
C'est notre maire, nous voulons Flanchec, c'est notre roi. Flanchec était très aimé parce que il connaissait bien les besoins des femmes et la vie difficile.
Est donc une personnalité politique importante, très implantée localement, et qui a des réseaux aussi politiques importants et syndicaux, et qui, vraisemblablement, va aider la grève à se développer et surtout à se structurer. Donc on a une première femme de la CGTU qui arrive, qui est identifiée, qui s'appelle Marie Bosque, qui vient de la manufacture des tabacs de Nantes. Et dans un second temps, il y a deux autres permanents de la CGTU qui arrivent et qui, eux, vont rester, Lucie Collière et Charles Tillon, qui arrivent vraisemblablement autour du 24-25 novembre 1924 et qui vont participer à l'organisation, la structuration de la grève en local, mais aussi surtout à la faire connaître et à activer des relais au plan national.
Archives, l'usine rouge.
On a été aidés alors, on nous donnait des légumes et un peu de viande pour faire à manger chez nous et des bons de pain qu'on nous donnait. Ça, c'est la grève en 1924, un défilé dans la rue Jean Jaurès, parce que les femmes arrêtaient à l'usine pour défiler tous les jours. C'était la grève des femmes. Et alors, on a fait des grèves, combien de temps qu'on a été ? Oh, près de deux mois, en train de faire des tours autour de la ville, partout, et en chantant « Pèmerelle, à beau Pèmerelle ». Et alors, on ne nous accordait pas. Puisque les femmes ne travaillaient pas, ils ne pouvaient pas aller en mer. Non. Le marin dépendait des femmes et les femmes dépendaient des marins.
Quand on regarde les photographies,
Théo Bernard, historien.
On n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même quelques-unes. On voit que c'est principalement des cortèges de femmes et que les marins ne vont pas se mêler directement au mouvement, puisque c'est seulement le 12 décembre 1924, où là, Michel Bordenec, le secrétaire du syndicat des marins de la CGTU, va donner ordre de ne pas sortir en mer. Et là, on voit quelque chose d'extrêmement différent sur toutes les images. C'est des manifestations mixtes avec des hommes et des femmes ensemble.
Et sans pitié, l'on repousse ces braves après avoir rempli les coffres d'or. Les travailleurs ne sont que des esclaves sous les courroux des maîtres du trésor. Saluez, riches gueux, ces pauvres en rayons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions.
Alors, les usiniers,
L'attitude globale, c'est une attitude de fermeture, de fin de non-recevoir à l'égard du comité de grève parce que ce sont des agitateurs, des gréviculteurs, des communistes qui sont là pour faire une grève politique, mais aussi à l'égard du préfet et aussi à l'égard du ministère du Travail qui va proposer son arbitrage au mois de décembre 1924. On a même une photographie du comité de grève sur les marches du ministère du Travail, mais il n'en sort rien, en tout cas la grève ne se termine pas puisque les usiniers refusent d'accéder aux revendications des ouvrières qui cette fois-ci ne sont plus de 20 centimes d'augmentation sur le salaire horaire, mais sont passées à pour les ouvrières, je parle seulement des femmes ici parce que c'est le plus gros effectif de main d'œuvre, de passer à 1,25 francs de l'heure.
Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions.
Et puis le tournant qui prend une portée dramatique et qui va modifier profondément la suite de la grève. Ce sont les événements du 1er janvier 1925. En fin de journée, entre 18h30 et 19h, dans un des cafés qui alors n'existe plus, mais ce carrefour existe toujours, hein, donc là où il y a la petite statue du Bolomik, dans le café L'Aurore, donc on est le 1er janvier au soir, donc c'est un jour férié, ça discute, voilà, et il y a une altercation qui va éclater et des coups de feu qui vont être tirés, qui vont blesser plusieurs marins, le maire, Daniel Le Flanchec, dont la gorge est traversée, et puis son neveu qui est blessé à la tête suite à ces coups de feu. La rumeur qui se répand tout de suite, c'est que Le Flanchec est mort, a été assassiné, a été tué. Par qui ? Eh bien, par des briseurs de grève. C'est le syndicat patronal, c'est le syndicat usinier qui les a sollicités justement lorsqu'ils sont venus à Paris pour rencontrer le ministre du Travail au mois de décembre 1924.
Les usiniers ont été très réticents, mais à un moment, il y a eu des problèmes, on va dire, puisque quelques usiniers ont appelé de Paris des bandits, des casseurs de grève, des jaunes, qui ont attenté à la vie de Daniel Le Flanchec, qui était le maire de Dordogne. Cet attentat, donc une balle qui lui a traversé la gorge, ça s'est passé le 1er janvier 1925.
Après cet incident, au départ c'est comme ça qu'on l'appelle, dans les minutes qui suivent, il y a une grande agitation. Et les briseurs de grève, on les a vus aller se réfugier à l'Hôtel de France, qui est en fait à quelques mètres du café L'Aurore, qui est aussi l'adresse du syndicat patronal. Et là, malgré les tentatives d'intervention de plusieurs membres du comité de grève, dont Lucie Colliard, dont Charles Tillon, qui essayent de calmer le jeu, qui disent qu'il ne faut pas céder à la violence. Les rapports de police sont très clairs là-dessus, sur la tentative de modération, de canalisation de la part de plusieurs militants et militantes syndicaux. N'y arrive pas, enfin en tout cas sur le coup, ils n'y arrivent pas. Et donc, le rez-de-chaussée de l'Hôtel de France est saccagé.
Camille, première voix. Quand on avait mis le feu à l'Hôtel de France, j'étais venue. C'était le 1er janvier. J'avais attendu ma mère qui était allée avec mon père voir la famille. Et ils étaient rentrés vers 6 heures à la maison. Et elle me dit, « On a tiré des coups de feu. Cherchez à retenir votre père. » Et moi je lui dis, « Reste là. » Et je file et je vais par derrière l'église. Pour aller, je prends la route Jean-Bart. Et là alors, je vois auprès de chez Plouinec les chevaux qui viennent avec les casques, la garde nationale qui viennent, alors pour sortir, pour renverser le monde, quoi, pour les faire partir. Je ne savais pas si on n'avait pas mis le feu. Ça avait été tout ravagé.
Pendant près de 2 heures, en fait, une mise à sac. Donc, ce moment-là, cette soirée du 1er janvier, c'est vraiment un point de bascule. Et là, le préfet, qui suit ça de très très près, qui se déplace à Douarnenez, dit non, là c'est plus possible. Là, la ligne rouge a été plus que franchie. Donc là maintenant, Enfin, on arrête tout, vous arrêtez tout.
Là, ça commence à bien faire.
Vous allez vous mettre autour de la table.
Vous allez céder.
On passe à côté d'un drame, dans le sens où personne ne meurt.
Ensuite, la demande, c'est pas excessif, quoi.
Mais maintenant, vous allez accéder aux revendications.
Les femmes ne demandent pas de changer de travail. Elles veulent bien continuer ce travail-là. Mais elles demandent de la dignité. Elles demandent d'avoir un petit peu plus.
Il y a donc des négociations qui sont menées par l'intermédiaire du préfet. Un contrat donc de sortie de grève qui est présenté au juge de paix, donc qui est la juridiction locale qui est chargée d'arbitrer les conflits du travail, et qui est validé par les représentants du syndicat patronal. Le contrat donc de Douarnenez, qui est signé le 6 janvier 1925, il acte une augmentation de salaire pour l'ensemble des ouvriers et ouvrières, quel que soit leur poste, de 20 centimes. C'est-à-dire, en fait, la revendication initiale, quand la grève a éclaté, donc elles n'ont pas obtenu Pemerel, comme elles le chantaient, elles n'ont pas obtenu 1,25 francs, mais elles obtiennent tout de même 1 franc. Ils obtiennent la reconnaissance du droit syndical, c'est-à-dire que le fait d'être syndiqué n'est pas un motif de renvoi. Elles obtiennent aussi qu'on distingue les heures de jour et les heures de nuit avec un paiement majoré pour les heures de nuit. Alors, les heures de nuit commencent à minuit. Bon. Et le fait d'avoir participé à la grève ne peut être non plus un motif de renvoi.
On a besoin de vous parce que la version corporelle est chantée, on a pris ce chant il y a 3 jours, donc on va avoir besoin de vous.
On a un moment où le préfet du Finistère écrit dans un de ses brouillons que l'extension est possible. Et dans un autre brouillon, il barre possible et il rajoute probable. Donc en fait, cette hypothèse-là est présente tout du long. Dès que la grève est terminée à Douarnenez, elle reprend à Audierne, dans un cadre beaucoup plus violent, d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue verbal. Et après, d'autres grèves vont éclater à Pont-l'Abbé au mois d'avril, puis après à l'Esconil en 1926-1927. Donc, une brèche était ouverte. En tout cas, beaucoup de monde pensait qu'une brèche était ouverte.
Est-ce que les groupes, vous êtes bien au clair ? En deux, là ?
Merci à Manon Amar et aux choristes de Cornita. Les archives sonores sont issues du film L'usine rouge, réalisé par Marie-Elia. C'était Les peines sardines, ouvrières en lutte, premier épisode, La grande grève de 1924. Avec les historiens Fanny Bunion, Théo Bernard et Alain Ledoaré, ainsi que Anne Denès Martin, écrivaine, Marie-Aline Lagadic et Clairvy Rivière, chanteuse. À venir au second épisode, Lucie Colliard, Joséphine Pencalette, deux femmes, deux destins.
Voilà qu'arrivent les peines sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles rentrent à l'usine. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles rentrent à l'usine. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines. Du matin au soir nettoient les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir nettoient les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Rappel des poissons, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'a pas d'horaire. Rappel du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'a pas d'horaire. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À bout de fatigue pour ne pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir. À bout de fatigue pour ne pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Écoutez, bruit leurs sabots, voilà. par milliers se mettent en grève. Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent. À plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez laquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire. Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire. Écoutez, laver leurs sabots, écoutez, gronder leur colère. Écoutez, claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les femmes sont fières. Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les femmes sont fières. Écoutez, claquer leurs sabots, écoutez, gronder leur colère. Écoutez, claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.